Bonjour à tous ceux qui se joignent à nous pour cette émission, pour cette deuxième heure. On va parler maintenant un petit peu d'environnement. Je sais que c'est un sujet qui vous passionne de plus en plus. Moi, j'essaie vraiment de faire ma part pour la planète de plus en plus. Les jeunes nous incitent aussi à le faire. Je pense qu'on est tous conscients là, qu'il faut qu'on améliore un peu notre empreinte écologique. Il y a des comportements qu'il faut vraiment laisser tomber. Et puis, il y en a d'autres, c'est parce que des fois, on n'est juste pas au courant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, le magazine Protégez-vous vient de préparer un dossier spécial pour son numéro d'octobre qui va sortir ce vendredi et où, justement, on repasse les gestes qu'on pense peut-être être écologiques puis qu'ils sont pas tant que ça, et d'autres où on nous dit, ben regardez, si vous faisiez ça à la place, ça serait peut-être encore mieux. La journaliste qui a travaillé là-dessus est Mathilde Roy, elle est avec nous. Bonjour Mathilde.
Bonjour Isabelle.
Avec nous également Amélie Côté, qui est spécialiste en gestion des matières résiduelles. Elle est blogueuse. Son blog, c'est Briques à bac, comme un bac de recyclage, au pluriel.com. Merci d'être là, Amélie. Mathilde, les grandes lignes de votre enquête, rappelez-nous pour nos auditeurs.
Ouais, ben en fait, nos lecteurs nous posaient beaucoup de questions là sur l'environnement, mais plus on faisait des recherches sur le sujet, plus on se rendait compte en fait que les choix qui nous paraissent les plus logiques sont pas nécessairement toujours les plus écologiques.
Exemple,
ben on pourrait prendre les emballages en plastique, disons. Ça soulève les passions. Donc, c'est vrai qu'on s'en passerait, on s'entend. C'est encore plus vrai quand on voit des produits comme des bananes ou des oranges emballés dans des pellicules plastiques. C'est ce qu'on appellerait du suremballage. Sauf que dans beaucoup de cas, les emballages permettent de prolonger la fraîcheur des aliments, de les protéger de l'humidité, des germes, des bactéries. Et sans eux, il y aurait plus de gaspillage. Et ce qui ressort du dossier, c'est que jeter un aliment, ben ça peut, dans certains cas, avoir un impact plus grand que l'emballage lui-même. Donc ça, c'est un exemple qu'on peut noter à l'épicerie. C'est particulièrement vrai pour la viande, le bœuf en particulier. Manger du bœuf, en fait, ça va être une excellente façon de réduire votre empreinte carbone parce que la production de cette
viande... Manger du bœuf ou arrêter de manger du bœuf?
Arrêter de manger du bœuf. Okay. Diminuer votre consommation,
ouais,
merci
ça.
De préciser. Parce que la production, en fait, de cette viande-là nécessite des quantités astronomiques d'eau, de nourriture. Ça va être un bien meilleur choix de se tourner vers le poulet, le poisson et encore mieux, le tofu.
Oui. Amélie, là-dessus, il y a des gestes, effectivement, qu'on pense être écologiques, ils sont moins. Est-ce que, parle-moi de toi un peu, parce que toi, tu as maîtrisé un peu ça, là.
Oui, puis un des sujets qui m'intéresse beaucoup, c'est entre autres l'impact environnemental de l'informatique. Donc, à savoir...
Il ne sert plus à rien, là.
Il ne sert plus à rien, mais ouais. Également toute l'info nuagique, donc ce qu'on entrepose dans nos Dropbox, Google Drive de ce monde, et les courriels également, qui peuvent émettre, l'envoi d'informations par courriel, c'est une source importante d'émissions de gaz à effet de serre. Donc des fois, ça peut se retrouver dans des éléments auxquels on pense même pas parce que c'est pas palpable.
Donc, OK, mais attends, le fait d'envoyer beaucoup de courriels, on augmente notre empreinte écologique, c'est-à-dire que ça crée des gaz à effet de serre.
Oui, parce qu'en fait, pour stocker l'information, ça prend des serveurs qui sont entretenus avec de l'énergie, qui chauffent énormément. Il faut les refroidir également, ces serveurs-là. Donc, tout le stockage d'information en tant que tel génère beaucoup de gaz à effet de serre. Non, effectivement.
On pense pas à ça. Mais en même temps, tu vois, là, regarde, si on pousse plus loin, on se dit... Le fait de s'envoyer des courriels peut éviter qu'on se déplace pour rien, qu'on utilise notre voiture, qu'on parle au téléphone. Tu comprends?
Effectivement, puis c'est un peu comme tu le mentionnais. C'est vraiment l'espèce de pondération. Il n'y a pas de solution simple aux enjeux environnementaux. C'est tout plein de nuances.
Est-ce que les gens ont tendance à se penser plus écolo qu'ils le sont véritablement, d'après votre enquête,
ben,
Mathilde Roy?
C'est une bonne question. Ce qui est certain, c'est que les gens ont plein de bonnes intentions. Hein. Surtout au Québec, là, on recycle, on composte, on est sensible au transport durable. Sauf que c'est vrai que, comme tu le disais, Amélie, pour que ce soit utile, il faut mettre les efforts au bon endroit et le faire de la bonne façon. Ce qu'on constate notamment pour... on parlait d'obsolescence un peu plus tôt. Les Canadiens, il y a une belle étude qui est sortie d'Équiterre. Ça montre que les Canadiens, en fait, on ne répare pas nos appareils. On répare pas nos téléphones, nos réfrigérateurs quand ils brisent. Et c'est vrai qu'on peut comprendre qu'on a l'impression que les appareils, et c'est vrai dans beaucoup de cas, durent moins longtemps, sont difficiles à réparer. Hein. On va chez Apple, puis bien souvent, on va nous dire, on n'a rien à faire pour vous, vous devez en racheter un autre.
Mais il y a quand même des fois, c'est le coût des réparations. T'sais, je prends mon exemple, moi j'ai payé, je ne sais plus combien, là, pour réparer mon réfrigérateur au fil des ans, j'ai dû m'en payer deux. Là.
Il y a, effectivement, ça peut être un élément.
J'ai juste une envie, c'est de passer mon réfrigérateur par la fenêtre. Alors, tu comprends que...
Mais est-ce qu'il fonctionne maintenant, Isabelle, ton
frigo? Oui, mais il me coûte de l'argent encore.
Voilà. Effectivement, c'est sûr que l'entretien coûte très cher. Donc ça peut être un prix qui est un peu prohibitif. On se dit, bon, ben ça coûte aussi cher d'en acheter un nouveau. Moi, des fois, je me dis, par contre, le temps pour magasiner le frigo, trouver une manière de gérer l'ancien...
Sais-tu combien ça prend de temps pour que quelqu'un qui vienne réparer ton frigo?
Ah oui, c'est long.
C'est compliqué. Non, c'est vraiment compliqué.
Donc, il y a une question d'accessibilité, effectivement, des services de réparation, mais je crois que de plus en plus, s'il y a un intérêt, il y a de plus en plus de réponses aux activités de réparation. On parlait de Incertec, qu'on s'était vu il y a quelques mois, qui organise des réparotons pour réparer les ordinateurs, les téléphones cellulaires.
Mais il n'y en a pas assez de ça,
non,
Amélie.
C'est ça.
Écoute, tu as une toilette qui fuit, tu fais venir un plombier, ça te coûte 165$. Tu as des toilettes moins chères que ça. Mais c'est bête de même, là. Tu fais le calcul, c'est ça, là, quand même.
C'est beaucoup de raisons qui nous mettent des bâtons dans les roues, en fait, puis qui nous incitent à aller acheter du neuf. Mais par conscience écologique, effectivement, c'est peut-être mieux, par exemple, de se tourner vers des produits qui sont de meilleure qualité. On est souvent tenté d'aller vers des produits de moindre qualité pour payer moins cher en se disant, de toute façon, je vais en racheter un autre dans peu de temps. Mais peut-être que ça, c'est une des stratégies qu'on peut adopter pour essayer de, au moins, prolonger leur durée de vie.
Une chose qui ressort de votre étude, Mathilde, c'est que ce qui est très dommageable pour l'environnement, c'est le café.
Oui, effectivement, on s'est beaucoup intéressé au café. C'est un bon exemple. Je pense que les gens, pour eux, ça leur parle beaucoup. On en consomme au quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est que il faut arrêter en fait de penser que l'impact écologique d'un produit va se résumer à sa fin de vie d'eau, donc aux déchets qu'on va générer en bout de piste. Parfois, ça va être davantage la fabrication, la manière dont on va l'utiliser ou le transport. Et la capsule de café à ce titre-là est un excellent exemple. Hein. On en a beaucoup parlé de la capsule de café. Mais on se rend compte, en fait, dans des études, qu'elles sont moins dommageables que la production du café et même, dans certains cas, la façon dont vous allez utiliser votre cafetière-filtre. Donc, je m'explique. Si vous laissez chauffer votre cafetière-filtre pendant 2 heures, que vous finissez par jeter la moitié de son contenu, que vous la lavez avec beaucoup d'eau chaude, de savon, et c'est ce que beaucoup de gens font. Vous allez dans des bureaux, là, même à Protégez-vous, ça se passe. et dans ces cas-là, bien, ça devient plus dommageable que la dosette elle-même. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'on prenne des dosettes à la place, mais il faut prendre conscience que gaspiller du café, ben ça aussi, ça a un impact.
C'est sûr. Mm-hmm. Mais moi, j'utilise, par exemple, comme pas mal de monde, des dosettes...
compostables
Oui, que je recycle. Mm-hmm. Mais je me demande chaque fois que je le mets dans le petit sac vert que la compagnie me donne pour... Je me dis, est-ce que quand je le mets dans le bac, est-ce que ça va être recyclé? Mm-hmm. Vraiment, est-ce qu'ils vont séparer le café?
C'est ce qu'ils nous disent. Je pense qu'on fait référence à Nespresso
ici.
C'est ça. Ils nous disent que c'est ce qu'ils font. Ils reçoivent ça dans les centres.
Non, mais il y a Keurig aussi qui en a. Il y a de plus en plus de compagnies qui font des dosettes, toutes sortes de choses. Donc, est-ce qu'ils les recyclent vraiment?
Faudrait aller visiter leur usine.
Il faut avoir l'information, mais je pense que même comme tu le mentionnais dans le dossier, même si on prenait l'hypothèse que les dosettes n'étaient pas recyclées, si les gens jettent trop de café, ben éventuellement ça a une empreinte qui est vraiment significative, parce que c'est ça, c'est vraiment de regarder sur tout le cycle de vie des produits.
Ouais.
Donc de l'extraction des matières premières, transport, transformation, utilisation, puis il y a beaucoup d'éléments pour lesquels c'est à l'utilisation qu'il y a le plus d'impact environnemental. Parce que ça prend beaucoup d'énergie. Et puis là, l'énergie, évidemment, au Québec, on fait de l'hydroélectricité, c'est un truc, mais quand même, ça prend des ressources de le faire. Dans d'autres pays, aux États-Unis, ça va être avec du charbon que fonctionne, dans certains cas, l'électricité. Donc, c'est de voir... ça soulève vraiment le fait que c'est vraiment complexe, finalement.
C'est pour ça qu'on peut donner l'exemple du vrac. Hein. On voit une belle tendance de ce côté-là. Les gens vont acheter leurs aliments, ils apportent leur pot, leur sac. Et c'est très bien. Seulement, si vous vous rendez dans cette petite épicerie spécialisée en voiture, ben vous venez complètement d'annuler les bienfaits d'avoir acheté en vrac. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir ces gestes, mais dans un ensemble.
Exact.
Ouais. En même temps, la vie d'aujourd'hui est faite de sorte qu'il y a des choses qu'on fait. Est-ce que les gens sont prêts? Par exemple, je pense au voyage, parce que dans votre étude, vous dites, évidemment, chaque fois qu'on prend l'avion, c'est une grosse...
Le pire geste que vous pouvez poser.
Voyager moins, mais plus longtemps. Là, je me dis, OK, ben ça, c'est une bonne idée. On aimerait tous faire ça, c'est-à-dire voyager pour de plus longues périodes. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de le faire. Fait qu'il y a des trucs qui sont réalistes, puis il y a d'autres choses, mais j'ai l'impression que c'est, on met ça dans la catégorie des vœux pieux, puis je pense pas que les gens abondent dans ce sens-là. Mais
c'est peut-être pas d'agir non plus sur tous les fronts en même temps. Hein. Si pour le travail, ben on a besoin de voyager, effectivement, c'est la vie. Par contre, on peut peut-être faire un effort ailleurs pour compenser. On le disait tantôt, par exemple, la consommation de bœuf, ça a un gros impact. Ben peut-être qu'on peut essayer de diminuer sa consommation de steak. Ouais. Et au moins, on aura fait notre part et on sera conscient de notre empreinte globale, finalement.
Mm-hmm. Ça, ça peut être intéressant. C'est intéressant justement de calculer c'est quoi notre empreinte environnementale pour avoir conscience de des éléments sur lesquels on peut agir, parce que des fois c'est ce qu'on ne soupçonne pas, comme la viande, comme tu le mentionnes si bien Mathilde, c'est vraiment un enjeu très important. Le transport, effectivement, quand c'est pour le travail, ben parfois on ne peut pas s'empêcher de le faire. Il peut y avoir quand même possibilité de compenser les émissions de gaz à effet de serre pour ceux et celles que les compagnies dont les employeurs sont ouverts à ça. Je pense que tu as
oui, on avait mentionnait les crédits carbone. Encore là, il faut être assez critique par rapport à ça. Il y a plusieurs fournisseurs de crédits carbone. Donc, par exemple, vous avez fait un aller-retour pour Paris. Vous avez émis, votre calculateur vous dit que vous avez émis 2 tonnes de CO2. Vous pouvez essayer d'acheter, donc payer, disons, 50 $. Et ce 50 $-là va servir à replanter des arbres. Sauf que ce qu'on me disait, une chercheuse en particulier me mentionnait que c'est pas seulement de rembourser ce CO2-là qui est important, c'est la vitesse à laquelle le CO2 a été émis, parce que faire pousser des arbres, ça prend du temps.
Ouais.
Et un vol, ça se fait en 6 heures seulement. Donc, il y a d'autres fournisseurs qui peuvent offrir des alternatives plus intéressantes, notamment dans l'énergie éolienne ou la biomasse, des énergies renouvelables qui vont être peut-être plus intéressantes.
De toute façon, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui appelle après avoir été en voyage quelque part dans le sud pour dire « j'aimerais ça compenser mon empreinte écologique et acheter des points de carbone »
Bien, vous seriez surprise parce qu'il existe vraiment beaucoup de fournisseurs qui proposent ça. Donc, effectivement, il faut être très conscientisé pour l'environnement. Mais
on devrait, je dis pas que c'est pas bien, là, je dis juste que moi, ça me vient pas à l'esprit, mais peut-être qu'il faudrait incorporer ça aussi. Déjà que je me mets à composter, là, c'est un gros effort. Là, j'ai raconté ça tout à l'heure aux gens, puis les gens sont partis là-dessus. Parce que il y en a qui compostent effectivement, il y en a qui le font depuis bien plus longtemps que moi, qui sont meilleurs, puis il y en a d'autres qui disent j'en ai pas question, ça va puer dans ma cuisine, il est pas question que je fasse ça. Il y a Marie-Ève qui me dit que bien sûr le compost à Cartierville, on a eu les bacs à compost le 4 mai, on se rappelle que l'été a été très chaud effectivement. Elle dit la ville de Montréal a ramassé notre compost seulement 2 fois depuis. Et elle dit franchement même si je les appelle à répétition, le fonctionnaire de la ville me dit bon, on va vérifier comment ça se fait. Elle dit du coup, ben là, on a arrêté de composter là, parce que ça fera. Là. C'est bon. Alors, c'est sûr que les gens veulent, mais si l'infrastructure ne suit pas, les gens vont décrocher. Et quand tu as essayé quelque chose et que tu n'as pas aimé l'expérience, tu y reviens rarement. Alors, je ne sais pas ce que Amélie, là-dessus. Là.
Ben c'est sûr que ça prend des actions sur différents fronts. Donc là, on parle de ce qu'un individu peut faire dans son quotidien, mais évidemment en contrepartie, il faut qu'il y ait les ressources qui sont disponibles. On parlait de réparation tout à l'heure. Ben la Suède par exemple a décidé de proposer un crédit de taxe à la réparation. Donc ça coûte moins cher de faire de la réparation à cause de ça. Il y a différentes solutions qui peuvent être mises en place aussi par les instances décisionnelles pour essayer de rendre plus accessible certaines actions écologiques. Peut-être que ça pourrait être, entre autres, d'inciter les compagnies aériennes à proposer d'emblée, par exemple, une compensation des émissions de gaz à effet de serre liées au déplacement. Donc, plein de pistes comme ça aussi sont possibles pour le cas particulier.
Oui, mais toi, sur le compost ou sur le recyclage, il y a Anne qui m'écrit qu'elle participe au programme de recyclage et compostage de sa ville. Elle dit même si je déteste ça, j'utilise depuis peu des sacs d'épicerie en tissu que je peux laver. Mon prochain défi, c'est le plastique. J'ai commandé des sacs à collation en tissu et je vais cette semaine aller remplir mes bouteilles d'huile d'olive et de canola chez un marchand en vrac. Je veux donner l'exemple à mes enfants, mais je suis pas certaine que ces gestes-là font vraiment une différence, alors que les gros fabricants sont même pas obligés d'utiliser des emballages biodégradables, que c'est un énorme camion qui passe pour ramasser les bacs. Elle se pose des questions. On est tous un peu là, finalement, hein?
Oui, c'est ça. Mais il ne faut pas minimiser l'importance de chacun des gestes individuels. Parce que là, on regarde, si, c'est facile de se démobiliser des fois face à l'ampleur des défis. Mais après ça, d'avoir un geste comme ça, mais si ça peut avoir une influence sur d'autres personnes autour de nous qui se posent la question. Pour le recyclage, les matières recyclables, elles ont une valeur économique sur le marché. Bon, on a entendu avec la Chine qu'il y avait certains enjeux, mais évidemment, ça fait partie du modèle économique des centres de tri d'avoir des revenus liés à la vente de matières recyclables. Donc, eux, ils vont travailler à s'assurer que ces matières-là, au bout du compte, soient réachetées. Donc, oui, le transport, mais ça permet de réintégrer des matières dans un processus de fabrication plutôt que d'en extraire de nouvelles matières premières.
Ouais.
Donc, c'est sûr que chacun des petits gestes pris individuellement peut avoir l'impression que c'est comme une goutte d'eau dans l'océan, mais éventuellement, si de plus en plus de personnes adoptent des gestes comme ça, ça peut avoir des répercussions au travail. On va se poser la question, bon, pourquoi est-ce que, par exemple, chez vous, on parlait des bouteilles d'eau, là, maintenant, il y a des fontaines d'eau qui sont accessibles à chez Cogeco, alors que c'était pas le cas. Donc, ça a une influence qui est plus large que juste le geste individuel.
Mais du coup, on utilise comme jamais des ce que vous avez là, des verres en carton. Puis je me disais, ben ce verre en carton est-il plus écologique?
Pas nécessairement. Donc là, bon, l'étape suivante, donc, ce serait d'avoir des verres réutilisables.
Des verres réutilisables.
Ouais.
Puis là,
puis encore là, les verres réutilisables, il faut les réutiliser souvent. Ben, en tout cas, c'est ce que les études montrent et c'est certain que c'est plus écologique que le pendant jetable, mais il faut les réutiliser un certain nombre de fois pour qu'ils deviennent équivalents.
C'est ça. Combien de fois est-ce qu'on sait? Je sais que les tasses, c'est 15 fois au moins qu'on
Non, c'est 210 fois.
210 fois?
Ouais. Mais c'est correct, c'est moins, un petit peu moins qu'une année. Donc, je veux dire, ça s'atteint très, très facilement.
Ouais, ouais.
Mais il faut prendre en compte aussi qu'on va le laver, ce verre-là. Donc, ça va nécessiter de l'eau, du savon. Idéalement, on le met dans le lave-vaisselle, un lave-vaisselle bien rempli pour que ça soit le plus efficace possible. Parce que si vous prenez plein d'eau, plein de savon...
Ça nous avance pas plus.
Pas plus, voilà.
Et c'est pas simple. On revient après la pause avec les commentaires de nos auditeurs. Est-ce que vous pensez que vous êtes un bon citoyen écologique ou vous pensez que vous pensez meilleur que vous êtes dans le fond? Parlez-moi de ces petits gestes que vous faites. 514-790-9850, 1-866-790-9850. On a Patrick avec nous. Bonjour, Patrick.
Bonjour, Isabelle.
On vous écoute par rapport à tout ce qui s'est dit là, sur nos gestes écologiques. Comment vous vous situez, vous?
Moi, je me situe, on va dire, moitié-moitié. J'ai mon beau-père a un chalet, alors on y va souvent, nous. Et là-bas, on composte énormément. On a un gros carré, là, environ 10 pieds, et c'est tout là que ça va, la nourriture et tout. Mais en ville, c'est un petit peu, justement, comme me disaient d'autres, problématique par rapport au... si t'as pas de jardin ici, faire toi-même ton propre compost pour le garder ou le donner à la ville, c'est quand même... je trouve pas ça très... pas productif, là, mais...
C'est pas facile.
Et ça rejoint aussi un peu ton premier sujet, justement, de la politique, où ce que l'environnement, ils en font pas une priorité.
Ouais.
On peut le voir aussi avec CCR, là, que le gouvernement se fait 5 ans minimum.
Et l'arsenic.
Et ça, c'est toutes les autres compagnies qui ont déjà été prises aussi à mettre de quoi dans le fleuve Saint-Laurent et c'est drôle, ces compagnies-là roulent encore et on
sait. Puis des fois, il y a des pénalités tellement un peu coûteuses qu'ils préfèrent payer des pénalités que de prendre des véritables mesures environnementales. Merci beaucoup, Benoît. Votre opinion sur le fait d'être peut-être pas autant écolo qu'on le souhaiterait ou qu'on le croit?
Ben, je pense plus que c'est de la poudre aux yeux. J'ai deux volets. Moi, le premier, on a commencé chez nous le compostage, le fameux compostage. On a commencé au mois de mai.
Ah.
Et vous devriez voir ce que ça allait apporter comme problème. Je suis rendu dans un quartier où est-ce qu'on est envahi par les mouches.
Ah ouais?
On a juste ça, des mouches. Pourquoi ça sort de là? Ça sort de là, des bacs. Tout le monde le dit dans le secteur. Ça, c'est une chose. Bon, on réussit à vivre avec. Mon deuxième point... Ou est-ce que je dis que c'est plus de la poudre aux yeux que d'autres choses? Tantôt, vos interlocuteurs, ils parlaient le fait d'aller acheter en vrac, mais d'y aller en auto, on venait de détruire un petit peu l'aspect écologique. Bon, ben à ce moment-là, moi, je suis rendu sur ma rue à moi avec 3 transporteurs différents qui font la collecte des déchets par semaine.
Ah oui, c'est sûr. Le bac bleu, le bac noir, le bac brun. Ben oui, tout à fait, c'est sûr.
Pour répondre à ça.
Amélie,
oui. Oui, en fait, pour ce qui est du compost, pour revenir aussi à la première intervention, là, il va y avoir de plus en plus... En fait, on prévoit couvrir l'ensemble de la ville de Montréal avec l'option d'une collecte de bacs bruns. Généralement, pour le compost, ça vient retirer une collecte de déchets. Donc, au final, ça va réduire... il va y avoir un équivalent de nombre total de collectes. Simplement, on remplace une collecte de déchets par une collecte de compost.
Ah ben là, attends, c'est parce qu'à Montréal, on en avait deux avant de collecte de poubelle. Là, maintenant, c'est un. Ils peuvent pas la remplacer. Ils peuvent pas prendre nos poubelles une fois ou deux semaines.
Non, pour l'instant, non. Effectivement, dans certains quartiers, puis en fait, pour les immeubles de plusieurs logements, là, les 9 logements et plus, généralement, il y a deux collectes de déchets. Donc, elle est remplacée par une collecte de déchets par une collecte de compost. Après, cet été, on a eu un été particulièrement chaud.
Mais ça va être ça maintenant.
Effectivement. Et pour les gens qui ont commencé cet été, des fois, il y a peut-être quelques petits trucs et astuces à appliquer là, pour s'assurer, justement, on en parlait tout à l'heure hors d'onde, là, donc de s'assurer que le petit bac beige qui est distribué soit au froid pour entreposer les matières compostables, puis vraiment, à ce moment-là, quand il fait très chaud, c'est important de le sortir à chaque semaine parce que effectivement, là, il peut y avoir certaines nuisances. De la même manière qu'il y en aurait si on laissait une poubelle à l'extérieur à 30-35 degrés.
C'est sûr.
Parce que ce sont les mêmes résidus. Mm-hmm. Donc, normalement, ils créent les mêmes nuisances. Simplement, on n'est pas habitué encore. Des fois, ça se peut que comme c'est une nouvelle habitude, il y a certains oublis, d'une part. Et puis, ça prend des ajustements nécessairement là, de part et d'autre.
On a des réflexes aussi. Là. C'est fou. À quel point on est des êtres d'habitude. Je me prends encore des fois à faire comme, oh non, pas là, c'est vrai, c'est pas dans la poubelle, c'est dans le compost. Mais moi, le petit bac beige, je l'ai mis sous mon évier, ça pue pas, je vous le jure, mais je me suis rendu compte, ça a été une prise de conscience incroyable, puis je l'ai dit à toute la famille, j'ai regardé comment qu'on a beaucoup de déchets, de bouffe, finalement. Moi, je cuisine beaucoup à la maison, là, je me fais pas livrer des boîtes. Puis, sincèrement, ça fait beaucoup de déchets de cuisine, de bouffe, de légumes. Ça va dans le... Tu sais, je le mettais dans la poubelle avant. Là, ça va dans le bac brun qu'ensuite je mets dans le garage. Puis ensuite, là où je me dis, je me croise les doigts, j'espère que mon bac brun, ils vont pas le foutre après dans le même trou que le bac noir. Tu comprends? Je me dis, j'espère que je fais pas ça pour rien. C'est plus là où j'ai des questions.
Ça. Ben, c'est sûr que quand on commence, il y a un certain niveau de contamination. Donc, des gens, parfois, mettent beaucoup des sacs de plastique dans le compost et ça complexifie tout le tri qui doit être fait à la source dans les lieux de compostage.
Je pense qu'avec toutes les questions que je reçois, là, je pense qu'on va faire une émission juste sur le compost. Comment bien composter? Ce sera pas là. On va vous faire ça dans les prochains jours. On a Denis avec nous. Bonjour, Denis.
Oui, bonjour.
On vous écoute. Êtes-vous un bon citoyen écolo ou
comment moitié, vous... moitié. Moi, ce que je déteste, c'est l'hypocrisie du recyclage. Ça fait 30 ans que je recycle. Au début, on mettait ça dans des sacs sur le bord du chemin. Là, on a eu le fameux bac qui rentre la moitié de ce que je mettais avant. Si le couvert du bac est moindrement ouvert, ils le prennent pas. Les centres de tri, si un centre de tri est fermé, ben les camions vont livrer ça dans le dépotoir. En 30 ans, ça n'a pas bougé. Ils nous ont donné, là, 25 ans, il y avait des supermarchés, ils nous ont donné un sac de recyclage. Puis, ils devraient en donner à tout le monde. Ils devraient en donner 2, 3, 4. Le prix que ça coûte pour poser un sac pour amener son épicerie, ça coûte à rien. Je félicite les magasins du dollar qui, 35 sous, si on veut un grand sac pour emmener nos choses, c'est 35 sous. Fait quand on arrive à la caisse et on a oublié notre sac, ben, 35 sous, on va en acheter 2, 3. Mais ils pourraient en donner pour éliminer les sacs de plastique. Il n'y a rien qui bouge.
Ils vous les donneront pas, ils vous les chargent. Vous allez faire l'épicerie, là, si vous voulez acheter un sac. Il faut le payer.
Oui, il faut payer, mais je veux dire, ils pourraient en donner. Ils pourraient avoir des actions de fait.
C'est sûr, vous avez tout à fait raison, mais ils veulent nous inciter à amener. Tu sais, tu vas faire une épicerie de 100$, ils disent, voulez-vous un sac? Ben non, je vais me mettre tout ça dans les poches. Franchement. Alors, si t'as pas de sac parce que t'es oublié, parce que tu cours, parce que t'as oublié, là, mais il faut penser à ça. Là, quand on dit charge mentale, mettons que ça nous rajoute une couche de ça. Alors, effectivement, pourquoi ne pas nous les donner? De toute façon, ils nous mettent leur gros logo dessus. Y a-tu moyen? Moi, si je te paye une pièce le sac, je veux pas ton logo. S'il y a ton logo dessus puis que je me promène avec, charge-moi pas. Y a-tu quelqu'un qui est d'accord avec ça?
Ben, c'est un enjeu. Là, il y a beaucoup, beaucoup questions là, qui sous-tendent à ça. Mais Les sacs de plastique, c'est qu'on en consomme vraiment beaucoup. Et puis depuis donc janvier 2018, les sacs de plastique à usage unique sont théoriquement bannis à Montréal. Après, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont été remplacés par des sacs qui sont plus épais et donc qui sont potentiellement plus nuisibles pour l'environnement parce que ça prend plus de matière pour les produire.
À moins qu'on les réutilise. L'idée, c'est de les garder, les réutiliser, voilà. Effectivement. J'ai une très bonne question. Une autre, c'est petite question de la vie. Mais tellement, tellement, pour avoir déjà vécu ça, Sylvie, je trouve, c'est intéressant votre question, elle dit les pots de beurre d'arachide ou de crème au chocolat, pour pas la nommer Nutella, avec la quantité d'eau que ça prend pour rincer les pots. Elle dit, je me demande souvent quand je suis en train de les nettoyer, coudonc, c'est-tu écologique, mon affaire? Je vis ça régulièrement. Alors, la réponse, c'est quoi?
C'est toujours une grande question existentielle. Ouais. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est on doit pas non plus consommer beaucoup d'eau pour rincer les pots. Moi, ce que je suggère toujours, c'est de prendre la vieille eau de vaisselle, là, puis tu sais, on le fait tremper un peu, on le rince vite. Ça a pas du tout besoin d'être parfaitement nettoyé. Et puis, la raison pour laquelle c'est suggéré de le nettoyer, c'est parce qu'il y a des travailleurs à l'autre bout du fil. Donc, dans le centre de tri, c'est des êtres humains qui sont là. Puis imaginez un pot de maillot pas rincé quand il fait 35 degrés. Ça peut être vraiment désagréable. Mais ça ne va pas empêcher qu'il soit recyclé en bout du compte. Parce que dans tout le processus, là, c'est nettoyer le plastique une fois que ça a été vendu.
Les boîtes de conserve, est-ce qu'il faut effectivement, s'il y a encore le couvercle à moitié ouvert, vous savez, des fois, on a un ouvre-boîte déficient, est-ce que c'est quand même recyclé?
Oui, mais il faut juste comme moi je suggérais de le rabattre à l'intérieur juste pour éviter que les gens se coupent, mais évidemment ils ont des gants les travailleurs là, c'est juste que
moi on m'avait déjà dit si le couvercle n'est pas complètement enlevé, on le recycle pas. C'est pas vrai.
Non.
OK. D'accord. Voyez-vous comment qu'on a besoin encore d'un guide de recyclage? En tout cas, on va certainement lire avec beaucoup d'intérêt. Moi, je l'ai vu, c'est vraiment fascinant. Il y a beaucoup d'autres choses qui étaient là-dedans. Je voulais pas brûler le sujet du gaspillage alimentaire. On va y revenir au cours des prochains jours. Parce que juste sur le gaspillage de bouffe, je trouve qu'il y a vraiment des choses à dire.
Là, on est peut-être moins bon élève de ce côté-là.
Oui, effectivement, c'est tout à fait ça. On jette beaucoup, beaucoup d'alimentation. Mathilde Roy, merci beaucoup. Allez lire le Protégez-vous. Ça sort ces jours-ci.
Oui, vendredi. C'est disponible dès maintenant sur le site web de Protégez.
Amélie Côté, on va référer bien sûr à votre blog.
Oui, bricabac.com.
Merci beaucoup à toutes les deux. Tout de suite après la pause. Avant que la nature nous confonde, juste un petit geste pour changer. C'est les respectables. Vous vous souvenez de cette toune-là? Ben oui, on a des messages environnementaux aussi. Ils vont faire la pré-party de Paul McCartney. Demain, on reçoit le chanteur. Tout de suite après, restez là tout le monde. Et si vous cherchez des réponses, dites-vous que juste un petit geste peut changer ma vie.